Roger Lemann, 6 mars 2011 sur Radio Silence. Bible liturgiae manialia Dei et nenos inducas in tentationem. Bonjour chers amis de Radio Silence. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 mars, 9e du temps ordinaire, ou dimanche de la quinquagésime, suivant le calendrier auquel on se réfère. Le carême commence mercredi prochain. Il m'a été demandé quel était l'indicatif musical qui ouvrait l'émission. Je le dis rapidement, il s'agit d'un extrait de la cantate BWV 4 de Jean-Sébastien Bach, « Christ lag in Todesbanden ». Le Christ gisait dans les liens de la mort. Cette cantate est dédiée par Bach au jour de Pâques, cantate de la résurrection, cantate de la vie. Elle comporte 7 versets, et chacun d'eux est en quelque sorte un ensemble de variations sur l'hymne du jour de Pâques, Victime Pasceli Laudes, hymne dans lequel on trouve ce verset sublime. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus. La mort et la vie ont engagé un duel stupéfiant. L'auteur de la vie, mort, règne vivant. Cette cantate a ceci de particulier, chacun des 7 versets successifs se termine par un Alléluia. L'Alléluia choisi ici, celui du verset numéro 5, air de basse. Dans notre rubrique Bible, liturgie et manialia Dei, nous examinons actuellement les traductions religieuses qui nous paraissent défectueuses. Il y a 2 semaines, nous avions étudié l'expression « consubstantialem patri » qui figure dans le credo et dont la traduction, de même nature, nous avait paru réductrice. Nombreuses sont les traductions que je me contenterai de qualifier d'approximatives, nous en relèverons quelques-unes une prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur la traduction de la 6e demande du Pater, « Et nenos inducas in tentationem ». Le Concile Vatican II s'était terminé, sous le pontificat de Paul VI, en 1965. Et c'est dès 1966 qu'une nouvelle traduction du Pater était proposée. Et pourtant, lors de la semaine de l'unité en janvier 1966. Ne faut-il pas voir là un cas de l'herméneutique de la rupture stigmatisée par Benoît XVI ? Elle fut présentée ad experimentum, mais avant que l'on ait vraiment eu le temps d'y réfléchir, de vivre cet experimentum, elle a été officialisée. Et cela dès Pâques 1966, 3 mois après. Comme s'il en avait eu peur qu'elle ne soit retirée. De nombreuses contestations sont apparues, commençant par quelques points mineurs. Le « aussi » intempestif. Il fut relevé dans la rubrique « Questions de langage » du Figaro sous la signature d'Aristide. « Examinons la phrase, dit-il. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme, y équivalent à « de même que » ou « ainsi que », on ne voit pas ce que la présence d'aussi, qui équivaut à « pareillement », peut ajouter au sens. Son aspect de pléonasme d'insistance se manifeste de façon indiscutable. Autre point relevé dans le même article du Figaro, que ton règne vienne. De mon temps, dit Aristide, on disait « arrive ». Cela ne change rien. Que si, l'euphonie. Essayez de vous répéter 10 fois de suite « règne vienne, règne vienne, règne vienne », puis « règne arrive », en écoutant la différence. Vous m'en direz des nouvelles. Dans une prière, comme en poésie, la musique des mots devrait toujours accompagner celle de la pensée. Faut-il que ce soit un enfant du siècle qui nous donne des leçons sur la beauté de la prière. Ces deux points et d'autres ont été relevés par l'abbé Carmignac dans son livre « À l'écoute du Notre Père », petit ouvrage très bref et clair, que l'on peut recommander et que l'on trouve encore. Mais son objection principale touche la sixième demande du Notre Père qui a été octroyée sous la forme « Et ne nous soumets pas à la tentation ». Avant d'entrer dans le fond de la question, voyons les conditions dans lesquelles cette traduction est apparue. C'est l'abbé Carmignac qui nous les présente lui-même. En effet, dans un article de L'Homme Nouveau de mai 1973, il écrivait « J'ai pu observer sur le vif la méthode employée. Un petit comité s'est formé et a fait savoir à certains évêques qu'il fallait réaliser une traduction écuménique extrêmement importante. Il a convoqué un exégète qui, au début, émet des réserves, mais auquel on expliquait qu'il fallait une décision pour le soir même. On a consulté diverses personnalités, dont la plupart n'avaient aucune compétence exégétique, mais qui étaient toujours choisies dans la même tendance. Par contre, on n'a pas consulté le professeur d'exégèse du Nouveau Testament de la faculté de théologie catholique de Paris, ni ceux de 6 autres facultés que cite l'abbé Carmignac et dont je vous fais grâce. Quand le projet de traduction a été soumis à l'épiscopat, plusieurs évêques ont protesté, mais on leur a tout uniment affirmé que cette traduction représentait le sentiment des exégètes. Dès lors, pour ne pas se trouver en opposition avec les exégètes, ces évêques ont accepté de voter la formule que leur bon sens théologique réprouvait. J'ai demandé à une dizaine d'entre eux ce qu'ils pensaient de cette traduction. Tous m'ont dit qu'ils ne l'appréciaient guère, mais cependant, tous l'avaient voté. D'autre part, dans la revue Foi et Langage, en 1978, l'abbé Carmignac écrivait « Après la promulgation de cette traduction, une lettre de protestation a été envoyée le 19 janvier 1966, soit quelques jours après que soit apparue la traduction, à tous les évêques de France. Deux seulement ont répondu. Un groupe de 29 exégètes français a présenté une supplique collective aux évêques de France où il leur demandait d'adopter le principe d'une révision et de constituer à cet effet une commission d'exégètes spécialement qualifiée dans l'étude du Nouveau Testament. Cette supplique est restée sans effet. Mais voyons le fond de la question. Jean Carmignac écrit « La formule « ne nous soumets pas à la tentation » contredit une affirmation claire du Nouveau Testament. Que nul ne dise quand il est tenté qu'il est tenté par Dieu. Lui, Dieu, ne tente personne. » Épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 13. En outre, cette formule contient une injure vers Dieu, continue Carmignac, car c'est une insulte d'attribuer à quelqu'un du mal qu'il n'a pas l'intention de faire. Oui, nous répondra-t-on, mais le latin, et nenos inducas in tentationem, peut encourir le même reproche. Pendant des siècles, nos ancêtres ont prié le Seigneur avec la formule de notre enfance et ne nous laissaient pas succomber à la tentation. Traduction mauvaise, peut-être, disait l'abbé Carmignac, mais vénérable en raison de son ancienneté. Et si on l'a changé, nous étions en droit d'attendre une formule meilleure alors que l'on nous a donné une formule pire. Écoutons-le encore. Si Dieu exerce le moindre rôle positif dans la tentation, il ne peut plus être infiniment saint, puisqu'il contribue par la tentation à inciter au péché. Et il ne peut plus être infiniment bon, puisqu'il contribue à entraîner ses enfants de la terre vers le plus grand des malheurs. Alors, comment comprendre? Rappelons l'explication de l'abbé Carmignac, qui tient à la place de la négation dans un verbe hébreu à la forme causative. Le verbe hébreu peut épouser trois formes. La forme normale, exemple manger, la forme intensive, manger gloutonnement, dévorer, et la forme causative, faire manger, c'est-à-dire nourrir. Si négation il y a, celle-ci peut porter ou bien sur le premier terme, ou bien sur faire, ou bien sur le second, ou bien sur manger. Premier cas, ne pas faire manger, c'est-à-dire ne pas nourrir. Deuxième cas, faire, ne pas manger, c'est-à-dire empêcher de manger. Le sens résultant est différent. Mettons « entrer dans la tentation » à la place de « manger ». Forme positive. Faire entrer dans la tentation. Plaçons une négation. Premier cas. Ne pas faire entrer dans la tentation. Ce qui signifie ne pas nous mettre en situation de succomber. Deuxième cas. Faire ne pas entrer dans la tentation. Ce qui signifie empêcher de succomber. Pour l'abbé Carmignac, la seconde forme est la seule bonne. C'est pourquoi l'association des amis de l'abbé Jean Carmignac a proposé aux évêques la traduction « Garde-nous d'entrer dans la tentation » qui, outre son exactitude liturgique, a l'avantage de conserver le même nombre de syllabes que « Ne nous soumets pas à la tentation », ce qui permet de la chanter avec la mélodie actuelle. Voici donc la situation. 1. La formulation actuelle a, d'après la déclaration de l'abbé Jean Carmignac, été introduite de façon frauduleuse, voire mensongère. Ne peut-on penser que Satan y est pour quelque chose ? 2. Pour l'abbé Carmignac, dire que Dieu pourrait nous soumettre, c'est dire qu'il pourrait nous placer dans l'état de dépendance de la tentation. Voyez définition du Robert. Ce qui est le propre de Satan, c'est donc un blasphème. Veillez à ce que ne soit jamais récité à mes obsèques ou près de mon cercueil la traduction blasphématoire de notre Père, a-t-il écrit dans son testament. Pour lui, il y a donc 45 ans que les catholiques de France blasphèment en disant le Notre Père, sans en être conscients, certes. Troisièmement, les évêques de France ont reconnu que la traduction devait être modifiée et ont voté en novembre 2009, en assemblée, un texte qui nous convient, nous a-t-il été dit. Mais ce texte n'est toujours pas officialisé en France, en 2011, alors que, en 2001, le pape Jean-Paul II déclarait « Les erreurs qui affectent les traductions en langue vernaculaire ont constitué un obstacle au juste progrès de l'inculturation ». D'aucuns prétendent que si l'on changeait la formule, les médias s'empareraient de la chose. Il est bien évident qu'il en serait ainsi, et que ce serait une nouvelle occasion de s'attaquer à l'Église. Mais en ce cas, continuant dans le blasphème, et cela que le dicton sera vrai, perseverare diabolicum. En tout cas, cette traduction a été introduite en France en 1966, semble-t-il sans l'accord de Rome. On ne comprend pas alors pourquoi il faut l'accord de Rome pour la supprimer. Je remercie Radio Silence de me donner l'occasion de présenter ce problème, mais je n'ai jamais que rapporté les propos et la solution de l'abbé Jean Carmignac. Il me paraît nécessaire de propager cette information de façon qu'elle déborde largement le cercle des auditeurs de Radio Silence. Je m'y emploierai. Je vous remercie, je vous retrouve dans 2 semaines.